Bonjour à tous, Carnet Nomade, Colette Fellous, bonne année à tous. Un jour à l'île Maurice avec Jean-Marie Leclésio, suite à la réalisation Vincent Deck.
Là-bas, il y a des pierres. Hein, je vois des pierres qui nous attendent. Les gens ont mis ça pour s'asseoir à l'ombre. Je vais les pousser un peu plus vers l'ombre. Donc, il faudrait prendre ces pierres et les mettre
à
l'ombre.
Ailleurs.
Allez, je vais faire ça. Ça doit être un peu lourd. Hein. C'est bien.
Oui, ce sont ces deux grosses pierres trouvées sur le sable que Jean-Marie Leclésio a fait rouler jusqu'à l'ombre des Fidao qui nous ont suffi à nous installer là, sur cette plage, et à reprendre le fil de notre conversation mauricienne. Souvenez-vous, sur la dernière page de ce carnet, nous étions près de la plage du Morne, à l'ouest de l'île, avec Jean-Marie Leclésio, et pour ouvrir l'année 2009, sur cette nouvelle page, aux couleurs de l'île Maurice, je vous propose de partager la suite de ces moments privilégiés passés en sa compagnie et avec ses proches, dans cette île qui est la matière la plus précieuse de son œuvre. L'île Maurice, en effet, s'insinue dans presque tous ses livres. Parfois, c'est une matière discontinue, irrégulière, mais toujours elle se transforme, elle se cache, elle renaît. À chaque fois, elle est différente, à chaque fois, elle est immuable. Elle est là, dans tous ses livres. Depuis Le procès-verbal, son premier roman, qu'il a publié en 1963 quand il avait 23 ans, et qui faisait déjà réapparaître en toile de fond la vie de son arrière-grand-père qui était chef-juge à Maurice. Jusqu'à son dernier roman, Ritournelle de la faim, qui rend hommage à sa mère sous les traits de la jeune Ethel. En passant par Le chercheur d'or et par Voyage à Rodrigue, qui sont très directement inspirés par la figure de son grand-père qui avait été chassé par sa famille de la grande maison Eureka, où nous conduira aujourd'hui Philippe Ray, qui est son cousin, et qui a grandi, lui, à Maurice, jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est ce grand-père qui, après avoir passé ensuite des années à rechercher cet objet perdu et en le métamorphosant en trésor caché à Rodrigue, l'île voisine, c'est lui, ce grand-père, qui a finalement quitté Maurice pour s'installer à Nice, la ville de naissance de Jean-Marie Leclésio. Mais les histoires et les mythes de cette maison et de cette terre perdue par ses ancêtres l'auront nourri pendant toute son enfance, et ce n'est qu'à 40 ans qu'il aura fait réellement le voyage jusqu'à Maurice. Depuis, il a choisi d'avoir une double nationalité. Je suis mauricien et français, j'ai deux nationalités. Et c'est aussi pour l'île Maurice que je suis content de ce prix, avait-il dit à l'annonce de son prix Nobel en octobre dernier. Carnet Nomade, un jour à l'île Maurice, à la mi-novembre, avec Jean-Marie Leclésio. C'est la plage du Morne, Jean-Marie Leclésio, ici, qui est donc la plage publique, avec derrière la montagne, devant la mer. Et pourrait prolonger cette conversation mauricienne.
Oui, c'est un endroit où j'aime venir. Enfin, quand je suis à Maurice, j'aime bien venir ici parce qu'il y a beaucoup de filao et qu'on est sous le vent des alizés. Donc, normalement, ça doit chanter. Mais là, ça manque de vent aujourd'hui. Et il y a beaucoup de voitures, d'ailleurs, aussi. Pourquoi on n'entend pas le bruit du vent dans les aiguilles de filao? Dans ma famille, il y avait une histoire assez drôle. La maison de ma famille était au milieu d'un bois de filao. Le filao, ce sont ces arbres qui ressemblent à des pins, mais qui n'en sont pas. Le nom latin, c'est casuarina. Et donc, ils avaient invité quelqu'un qui venait de France, je crois. Et on commence à servir le repas. Et le monsieur ne mange pas beaucoup. Et on lui dit, mais monsieur, vous ne mangez pas plus que ça. Et il dit, non, mais je me réserve pour la friture. Et il entendait le bruit de filao. Il croyait qu'il y avait quelque chose qui était en train de frire à la cuisine. C'est une histoire qu'on raconte.
Oui, c'est drôle. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des bruits très particuliers à Maurice. Ça fait partie aussi de l'envoûtement de cette île.
Oui, ce sont des bruits qui sont liés à la nature, parce que c'est un pays où, au fond, il y a très peu de présence de la modernité. On est entouré par la mer, pratiquement partout où on va, sauf dans les montagnes, on entend le bruit de la mer sur les récifs, il y a le bruit du vent, les oiseaux, donc on est constamment sollicité par ces bruits qui ne sont pas des bruits dramatiques, ce sont plutôt des petites musiques en sourdine qui accompagnent la vie, et puis le bruit aussi des gens, le bruit des enfants, les chiens qui aboient la nuit. Maurice a la spécialité des chiens qui aboient toute la nuit. Et les gens, pour les éloigner, allument des pétards et les jettent par la fenêtre.
Ah oui.
C'est ce que font mes cousines, par exemple. Alors, inutile de vous dire que quand on jette un pétard au milieu de chiens errants qui aboient, ça fait un boucan assez considérable, parce qu'ils aboient encore plus. Mais ce sont ces... Et puis aussi, ces bruits que j'aime beaucoup à Maurice, qui parlent du mélange des cultures. Parce que à peu près partout où vous allez, vous entendez le gong des temples, vous entendez les cloches des églises et vous entendez le muezzin qui appelle à la prière. Donc on est dans un réseau de bruits religieux, mais je trouve assez agréable ce mélange.
Et vous êtes promené dans plusieurs parties de l'île aussi. Il y a tous ces noms aussi qui appartiennent à l'île, tous ces lieux qui sont vraiment comme un poème.
Hein. Oui, ce sont pour la plupart des noms très anciens. Et les marins qui s'ennuyaient fort à bord, lorsqu'ils arrivaient quelque part, avaient, j'imagine, préparé un lot de noms pour tous les endroits où ils allaient. Et ce sont des noms qui sont toujours un peu drôles, il y a un côté humoristique, ce n'est pas très très sérieux. Des noms comme Flic en Flac, ou comme Belle Ombre, comme Roche-Bois, enfin tous ces noms qu'on voit un peu partout.
Trou d'eau douce,
qui veut vraiment dire ce que c'était, c'est l'endroit où on allait faire de l'eau douce quand on était à bord des bateaux. Donc tous ces noms qui parlent de ce passé maritime de Maurice... et qui, par chance, sont presque tous en français, sauf deux noms, le Peterbot, qui évoque le nom d'un navigateur hollandais, un des premiers à arriver, qui s'appelait Peterbot, et le Morne Brabant, là où nous sommes, Brabant, du nom du Brabant, puisque c'était le nom d'un bateau qui avait fait naufrage au large. Et il y a aussi des noms qui ont des résonances exotiques, comme Médine, comme Yémen. Là, ce sont les baigneurs qui s'impatientent. Ils appellent les enfants peut-être pour qu'ils viennent rejoindre la voiture.
Oui, Yémen, c'est étonnant qu'il y ait ce nom-là.
Oui, parce que ces propriétés sucrières, pour les gens qui les créaient, ils devaient évoquer les contrées lointaines d'où venait le sucre, le café... comme Moka, par exemple, qui était le lieu d'origine de ma famille, Moka, parce qu'on avait tenté d'y faire croître le café. Oui, tous ces noms racontent des histoires.
Et ils sont dans vos livres, parfois vous les contractez, ou vous, par exemple, Rosilis, est-ce que ça vient de Rosil, et la maison de Rosilis
Oui, tout à fait, ça vient de Rosil, mais j'ai voulu changer, me donner un nom qui ressemblait un peu à un nom breton, pour changer légèrement ce nom. Oui, ce sont des noms qui, pour moi, que je connais depuis que je suis enfant, on me les dit, on me les répète, bien que je n'étais pas à Maurice, pour une part de moi-même, était dans ces endroits. Oui.
Et quand vous avez découvert Maurice et que vous avez eu envie aussi d'écrire autour de Maurice, j'aime beaucoup ce mélange dans vos livres de choses concrètes, de noms de lieux, de descriptions concrètes et tout. Et puis cette liberté aussi de romancer, d'inventer. Alors on se demande comment vous vous faufilez dans cette recréation de l'histoire, de la mémoire.
Oui, c'est vrai que pour moi, Maurice, c'était un endroit fictif. Je ne savais pas, quand on me disait Rosil, je ne savais pas ce que c'était du tout. J'avais aucune idée. Il y a un autre endroit qui s'appelle Rosebel, on m'en parlait. On me disait la côte de Rosebel. Je me demandais qu'est-ce que ça pouvait bien être. Quand j'ai vu tout ça, ça s'est démystifié. Et en même temps, ça a pris un autre sens. Je me souviens la première fois que j'ai vu Rosebel, il pleuvait à torrents. J'étais dans un bus, c'est ces bus mauriciens qui ressemblent un peu à des guimbardes. Et il pleuvait à l'intérieur du bus. Et je voyais à l'extérieur un très jeune couple avec un bébé qui avançait un peu plié sous la pluie. Et qui avait l'air, la femme tenait le bébé dans son sari, l'homme était chargé d'un fardeau, enfin d'une sorte de baluchon avec des hardes, je me disais, tiens, il déménage. Et ça avait quelque chose de vraiment très très ancien. Et tout à coup, ce nom de Rosebel devenait réel et devenait parler aussi de ce petit peuple mauricien qui vit pour une grande partie comme on vit en Inde. Et j'imagine, je voyais ça, je pensais, parce que je suis chrétien, donc je pensais à Jésus, Marie et leur enfant en train de fuir l'Égypte. Et je me disais, ça devait ressembler à ça. Ils ont dû peut-être être sous la pluie un jour ou pris par le froid, puisque c'est vrai qu'en Israël, il fait froid. Ce n'est pas un pays qui est toujours chaud. Et donc, à la recherche de cette grotte, je me disais, tiens, ça devait être quelque chose comme ça. Il y avait une actualité d'une image extrêmement ancienne, celle d'un jeune couple qui va à l'aventure et dont le seul trésor, en fin de compte, est ce jeune, très jeune enfant qu'il porte. Je vois, dans toutes les cultures, il y a cette idée-là.
C'est vrai, oui. Et ça naît des personnages qui sont dans vos livres naissent aussi d'une intuition, d'une vision, d'une apparition peut-être à partir du réel.
Oui, c'est vrai que Maurice, pour moi, c'est un endroit où peuvent se matérialiser les vieux mythes, les vieilles histoires, beaucoup mieux qu'ailleurs. Je ne sais pourquoi. Peut-être parce qu'il y a cette rencontre de culture avec, comme vous avez pu le voir, des scènes extrêmement archaïques qu'on voit dans les champs, oui. Ces femmes habillées en haillons elles mettent des haillons juste pour pas abîmer leurs beaux vêtements, mais elles sont en haillons à bêcher la terre, à préparer les champs pour la canne. Et le soir, on les voit revenir en portant sur la tête en équilibre leur bêche, leur houe. Et c'est une scène très ancienne. Et en même temps, c'est dans un lieu qui offre toutes les garanties de la modernité. Par ailleurs, c'est un endroit qui n'est pas un continent immense comme l'Inde, qui n'est pas âpre et désertique comme l'Afrique. C'est un lieu qui a beaucoup de charme et un côté très familial, accueillant. Donc des scènes anciennes dans un endroit moderne, avec ce décor souvent extrêmement étrange de ces montagnes aiguës et en même temps le lagon. Je ne sais pas si vous êtes sorti le matin très tôt, par exemple à 6h du matin, le lagon est, on dirait, un miroir. Si on voit les pêcheurs debout au milieu de l'eau, parce que la marée est basse, ils ont de l'eau jusqu'aux genoux alors qu'ils sont déjà à près d'un kilomètre du large, enfin au large, et ça donne une impression étrange. On les voit se refléter dans le lagon comme une sorte d'oiseau aquatique immobile à pêcher le calmar ou à pêcher les crabes qui sont dans les anfractuosités. C'est tout ça qui fait qu'on peut y insuffler vraiment de l'imaginaire. C'est un pays qui accueille l'imaginaire.
Et vous avez finalement choisi beaucoup de lieux où, bien sûr, Maurice est peut-être le point central, le point d'origine, mais il y a aussi la Corée, le Nouveau-Mexique, où vous sentez aussi bien.
Oui, mais je crois que j'ai besoin de ce radeau, de revenir sur ce radeau qui est Maurice. Et j'en parle partout où je vais. J'étais en Corée et je parlais de Maurice à des Coréens qui ne savaient absolument pas que ça existait. Et ce sont des gens qui vivent dans une île, eux aussi. Une île qui est au sud de la Corée, qui ressemble beaucoup à Maurice. Il y a quelques plages de corail, un volcan au centre. Et je crois qu'il y a même des fils à eau. Et ça ressemble vraiment considérablement. Et ces gens me disaient, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un jumelage entre cette île et Maurice? Et donc, il y a des écrivains aussi très nombreux dans cette île, qui s'appelle Jeju. Et je vais voir si les écrivains de cette île peuvent venir rencontrer les écrivains Maurice, hein, voir ce qu'ils ont en commun. Qu'est-ce qu'on a en commun?
Que vous fassiez le lien justement entre ces deux terres.
Oui, et pour moi c'est vrai que, un peu comme pour d'autres, c'est le village qui est le centre de leur vie. Moi c'est cette île, c'est mon village en fin de compte. Et quand je viens à Maurice, j'ai ce sentiment. Dès que j'en pars, je me dis où est-ce que, à quoi j'appartiens. Je n'ai pas vraiment cette idée. Et quand je viens ici, ça se manifeste avec une certaine évidence.
On sent d'ailleurs que vous êtes bien transformé, enfin dans un lieu juste, presque.
Oui, c'est ce qu'on appelle au Mexique la petite patrie. Petite patrie, ça correspond vraiment à ça. C'est-à-dire la patrie qu'on a dans le cœur, qui n'est pas forcément un très grand pays, c'est le cas ici. Et qu'on emporte avec soi, on emporte toujours quelque chose, comme si on transportait un petit caillou, une petite plante qui vient de là, une odeur, une feuille. Donc ça vous suit et peut-être ça vous donne la volonté d'affronter d'autres endroits où les problèmes sont beaucoup plus violents qu'ici.
Et quand on lit dans vos romans la quête aussi de votre grand-père, il y a cette langue aussi qu'il a inventée. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous lui avez inventé cette... parce que c'est complètement étonnant ça, ce besoin qu'il a eu aussi d'inventer une langue.
Oui, il y a une histoire qui court autour de ça, qu'on m'a racontée il y a longtemps ici à Maurice. C'est même une dame assez âgée qui est venue me parler de ça un jour. J'étais au bord de la mer, comme là maintenant. Elle est venue vers moi et elle m'a parlé, elle m'a demandé si je connaissais cette histoire de ce langage, crypté, ce langage qui serait comme une communication avec des forces surnaturelles. Je l'ai regardé un peu avec un peu d'étonnement.
Vous avez choisi comme ça pour vous dire ça, c'est curieux.
En fait, c'était quelqu'un qui connaissait mon grand-père, qui est venu me parler de ça. Et mon grand-père, Léon, celui qui s'est consacré à la recherche de ce trésor. Et donc, ça m'est resté qu'il y avait eu à un moment donné, à Maurice, et peut-être il y avait toujours, des gens qui, par une sorte de transe, utilisaient cette langue. Et quand j'étais en Corée aussi, là, quelqu'un m'a parlé de la langue du ciel, la langue comme la langue des anges. Et un peu plus tard, en Suède, quelqu'un m'a parlé de Swedenborg et de sa communication avec les anges qu'il recevait dans une petite cabane qu'il avait construite dans son jardin. Et je me suis dit, après tout, puisque dans plusieurs endroits, des gens ont parlé cette langue mystérieuse, peut-être qu'elle existe vraiment. Enfin, il est possible qu'on ait besoin de temps en temps de l'entendre, ou que le langage sensé, le langage cohérent soit une approximation de cette langue-là.
En même temps, oui, c'est presque la définition même de la poésie aussi, d'entendre une langue sous la langue, sous le réel.
Oui, une langue qui vient comme une sorte de transe et qui utilise les sons plutôt que le sens des mots, qui sort comme une sorte de chant d'incantation. C'est vrai qu'on a besoin de ça. C'est vrai que les prières, d'une certaine façon, ça ressemble à ça. Et en Amérique, par exemple, l'endroit où je vivais, les sorciers, on va dire, parce que c'est le mot qu'on donne à ces gens, mais c'est pas vraiment, sont pas vraiment des sorciers, ce sont des gens qui soignent et qui ont des visions. Ils utilisent aussi une langue que personne d'autre qu'eux ne connaît. Et qui leur sert à cette communication, à cette vision aussi. Grâce à cette langue, ils ont une sorte de transe qui leur permet de voir ce qui va arriver, ce qui vous trouble, ce qui vous dérange, et qui sont à même parfois de soigner ou d'accompagner dans la mort, ce qui est aussi une façon de venir en aide aux gens. Et ça, j'ai vu cette pratique et tout cela semble correspondre, et comme si au-delà du langage, ou bien à côté du langage, il y avait un autre langage, peut-être juste la parole des animaux, au fond.
Les oiseaux, le chant, c'est étonnant la matière de ce, de leur voix, de leur cri, oui. Parfois qui...
Oui, qui ressemble à des voix humaines, oui. Ou bien sont les voix humaines qui parfois ressemblent aux voix animales. Les coupeurs de canne, je ne sais pas si vraiment à Maurice ils le faisaient, mais en tout cas ils le faisaient dans les Caraïbes, à Cuba et en Haïti, ils faisaient ça. Quand ils avançaient dans les cannes qui étaient plus hautes qu'eux, de façon à se prévenir, parce qu'ils maniaient des machettes, ils pouvaient se couper bras et jambes, et donc ils aboyaient comme des chiens. Et ils écoutaient, et quand les aboiements se rapprochaient, ils aboyaient aussi, ce qui fait que l'autre ne s'approchait pas. Et ils utilisaient l'aboiement du chien pour se... Et ça a donné une musique, d'ailleurs. Il y a une musique en Amérique latine, au Panama, qui est faite par les descendants des coupeurs de canne, des esclaves, en gros, qui s'appelle le pindin, et dans lequel, à la fin de chaque refrain, les participants, musiciens et chanteurs, aboient. C'est l'aboiement des coupeurs de canne. On a besoin, de temps en temps, des voix animales.
Eureka. C'est cette maison à laquelle il faut que je revienne maintenant, comme au lieu le plus important de ma famille. Cette maison dans laquelle ont vécu mon père, mes deux grands-pères qui étaient frères, mon arrière-grand-père, Sir Eugène, et mon arrière-arrière-grand-père, Eugène Ier, qu'il avait fondé autour de 1850. Maison pour moi mythique, puisque je n'en ai entendu parler que comme d'une maison perdue. Presque magique, Philippe Ray, de se retrouver à Maurice, dans cette maison Eureka, qui a été votre maison, la maison des Le Clésio, puisque votre mère aussi est une Le Clésio.
Oui, c'est cela. Donc cette maison d'Eureka, qui était la grande maison familiale, est aujourd'hui transformée en musée. Donc là, nous sommes à l'entrée de ce musée. On entre par l'arrière. Voilà, maintenant, ça me fait un drôle d'effet de voir tous ces lieux que j'ai connus, qui vivaient, la vie d'une famille, maintenant transformés en musée. Mais bon, heureusement, ça existe. Ça existe. Ça a été sauvé de la destruction par cette transformation, justement.
Aucune autre maison n'aura jamais d'importance. Aucune n'aura tant d'âme. S'il n'y avait eu Eureka... Si mon grand-père n'en avait été chassé avec toute sa famille, sa quête de l'or du corsaire n'aurait pas eu de sens. Cela n'aurait pas été une aventure aussi inquiétante, totale. La grande maison de bois, peinte en blanc, avec son toit gris et ses volets vert pâle, sa longue varangue aux colonnes rectilignes, ses hautes fenêtres fermées, le jardin secret sans limite, la montagne Horie, le ciel où les cirrus laissaient des signes fugitifs, tout cela semble devoir durer une éternité. Ne pas pouvoir disparaître. C'est le domaine que mon grand-père a perdu un jour, comme on s'éveille d'un rêve, sans espoir de retour. C'est le domaine qu'il a voulu pourtant retrouver, en entrant dans un autre rêve, comme pour nier l'impossible par l'impossible. Eureka, maison hors du monde, ne doit plus vieillir alors, malgré tous les carias qui rongent son bois, malgré les pluies qui pourrissent ses fondations et les cyclones qui brisent ses volets et arrachent ses bardeaux. Je crois que mon grand-père ne cesse de la voir telle que l'a peinte son frère Alexis, pâle, légère, pareille à un mirage, avec ses 100 fenêtres fermées sur un secret qui ne peut plus désormais appartenir à personne. Et cette maison, en fait, représente vraiment toute l'histoire de la famille Le Clésio.
Oui, elle a été construite à peu près à la moitié du 19e siècle par mon arrière-arrière-grand-père, qui, selon la légende, est venu ici et puis a été tellement heureux de trouver ce coin, il s'est écrié Eureka, j'ai trouvé. Et donc la maison a conservé ce nom. Et puis, donc ses deux fils ont habité le domaine. Donc l'un d'eux qui s'appelait Eugène, qui était le premier chef juge mauricien de la colonie à l'époque, c'était une colonie anglaise, a habité cette maison, donc qui existe encore, et l'autre, qui était mon arrière-grand-père, les deux ont été anoblis par la reine. Ils étaient sœur Eugène et sœur Henry. Et l'autre, sœur Henry, était donc propriétaire sucrier. Il avait fait construire une maison un peu plus loin. Donc j'ai toujours connu ces deux maisons ici. Et c'est un très grand domaine. Je pense qu'il doit faire à peu près 300 ou 400 hectares. Ce qui est beaucoup pour Maurice. C'est très rare de trouver des domaines de cette taille. Et pour nous, enfants, on courait dans ces bois. On allait à flanc de montagne derrière. On descendait dans la rivière. On allait se baigner à la cascade plus bas. Et c'était pour nous le paradis sur terre, ces domaines. C'était magnifique. Et puis moi, je l'ai connu avec des vieilles tantes qui étaient donc les filles de Sir Henry et qui habitaient dans la maison plus loin qui a été détruite. Et ces deux vieilles tantes organisaient des grands rassemblements familiaux. On était 200-250 cousins dans cette maison lors des rassemblements familiaux. C'était toute une ambiance, toute une époque qui a malheureusement disparu. C'est très nostalgique de revenir comme ça,
c'est vrai,
ouais. Sur les lieux, oui.
Oui, parce que la maison est immense, il y a, je ne sais plus, 17 chambres.
Oui, oui, elle est immense. Bonjour. Alors ici, nous sommes dans la grande salle à manger, voilà. Donc il y avait une très grande table qui devait faire 30 mètres de long. Et nous étions tous autour de cette table. Et je me souviens, nous avions un cousin qui était trisomique et qui était adoré de la famille. Et les plus belles fêtes ici étaient en l'honneur de ce cousin. Et je le revois là, entouré de 200 personnes, soufflant les bougies de son gâteau. Il y avait une chaleur, une amitié, une joie. Une joie, c'était des familles, une famille comme les autres familles, avec ses problèmes, ses petites disputes, etc. Mais quand on se retrouvait ici, il y avait une unité, une évidence d'être ensemble. Et j'ai de très beaux souvenirs ici, oui, dans cette pièce. Et la véranda. Voilà, toutes les maisons mauriciennes avaient ces vérandas tournantes. Ça, on va faire le tour. Quand il faisait très chaud, on faisait descendre ces grandes voiles. Toutes les maisons avaient, on appelait ça les voiles. C'est des termes qui restent, qui ont persisté depuis l'époque des arrivées en bateau. Et on descendait les voiles. Voilà. Et là, c'est de la pierre de Maurice. Ça, c'est la pierre volcanique. Qu'on taillait, qu'on faisait venir comme ça pour les maisons, qui était un mélange de pierre pour les perrons, pour les terrasses, et tout l'intérieur était construit en bois, ce qui était très agréable pour rafraîchir un peu, pour qu'on ait une température agréable, et en même temps c'est des maisons vulnérables aux cyclones. Donc dès qu'un cyclone approchait, on s'enfermait, on fermait ses grands volets et on entendait le bruit du vent qui traversait comme ça, à travers les volets, à travers ses fenêtres, qui sifflait. Et là, on avait vraiment l'impression d'être dans un navire en pleine tempête. Ça, c'était très beau. J'ai de très beaux souvenirs de cyclone à Maurice. Souvenirs assez angoissants aussi, parce qu'il y avait ces grands arbres. Vous voyez que les arbres étaient proches de la maison.
Oui, ils sont énormes.
On avait très peur que des arbres tombent sur la maison. Donc ça, c'était encore une autre inquiétude. Donc on s'éloignait des pièces qui étaient à proximité des arbres. J'ai vu un jour comme ça un grand longanier tomber. On l'aimait beaucoup, on montait dedans quand on était petit. Et ce grand longanier, c'était en 75, je me souviens très bien, un cyclone très violent. Et on l'a vu tomber et c'était comme un ami que je perdais. Je pleurais à l'intérieur en voyant tomber ce grand arbre. Les cyclones rythment la vie de Maurice. C'est très important pour comprendre l'esprit des îles, parce que dès que le mois de février approche, on sait qu'on entre dans la période des cyclones. Et quand on vit dans des maisons comme celle-ci, on est très, très inquiet. Il y a une fébrilité dans l'air. le ciel devient rose la veille de l'arrivée du cyclone. Donc on sait un certain signe, les oiseaux se taisent. Tout le monde, toute la nature se prépare à l'arrivée du cyclone. Et le Clésio décrit ça très bien en Cherchant d'or. Comment un cyclone peut venir et complètement envelopper l'île, tout s'arrête, on ne sort plus de chez soi, et le vent souffle dans une direction, ensuite passe l'œil du cyclone, qui est un grand moment de calme, et après on voit les feuilles qui frémissent. C'est-à-dire que la suite du cyclone va arriver, mais dans l'autre sens, parce qu'évidemment c'est un vent circulaire qui tourne. C'est très angoissant parce que la queue d'un cyclone est plus forte que la tête. Et donc là, ce sont des moments très, très violents dans la vie de l'île. Et en même temps, il y avait quelque chose pour nous enfants d'un peu jouissif, parce que le lendemain, on courait dans les rues, on allait voir les grands arbres abattus. Quand vous avez 10 ans, c'est une excitation aussi. On était moins sentimentaux, on n'est pas sentimental à 10 ans. On est plus intéressé par le caractère exceptionnel, oui. Et c'était des moments très forts, oui.
Et ce jardin, donc, est immense. Hein.
Ce jardin est immense, oui. Donc ça, c'est un vieux manguier que j'ai connu et que probablement mon arrière-grand-père a connu aussi, puisqu'il est extrêmement vieux. Les vieux manguiers donnent de très, très bons fruits, très juteux. Là, je revois cet arbre entouré d'une tente immense, parce que les mariages à Maurice, c'est 400-500 personnes.
Et donc Jean-Marie Le Clésio n'a jamais vécu, n'a jamais vu non plus toutes ces fêtes, puisqu'il était de l'autre partie de la famille.
Voilà, Jean-Marie est venu ici alors que la maison, je pense, était déjà transformée en musée. Il est venu tard, il avait plus de 40 ans, je crois, quand il est venu. Mais je crois qu'il connaît cette maison encore mieux que moi, parce que il a vécu avec elle quotidiennement. Je pense que ses parents lui en parlaient tous les jours de cette maison. Je revois chez lui à Nice une aquarelle qu'avait faite son grand-père, je crois, si je me souviens bien. Très jolie aquarelle de ce côté-ci, parce que la belle façade est là. Je crois qu'il l'appelait la maison sans fenêtre ou quelque chose comme ça. Et je revois cette aquarelle à Nice que sa mère m'avait montrée. Et je crois qu'ils étaient extrêmement attachés à cette maison qu'ils ont dû quitter au début du siècle, vers 1915. Et je crois que ce départ de la maison a été extrêmement douloureux pour la famille. C'est une histoire de famille très complexe et tout ça a été vécu douloureusement des deux parties de la famille d'ailleurs. Et moi je sais que j'ai mes tantes à Maurice qui parlaient encore de cette histoire, je ne sais pas, 70 ans après. Et pour nous à Maurice c'était douloureux certes, mais nous étions encore dans les lieux. Tandis que la famille de Jean-Marie est partie et je crois qu'elle ne s'en est jamais remise au fond de ce départ de Réka. Et je pense que l'œuvre de Le Clésio est traversée par cette perte initiale qui est cette maison, probablement. Et bien sûr, après, il n'a cessé de rechercher beaucoup de choses perdues par l'homme, tout simplement, l'appauvrissement de l'être, par la civilisation consumériste, matérialiste et occidentale au sens large, qui remonte, je ne sais pas, à partir des Grecs. Je pense qu'il a autant d'admiration pour les présocratiques. C'est parce qu'il a eu l'intuition que quelque chose s'est perdu avec le siècle de Périclès, déjà. Et donc, mais je pense que ce mouvement de recherche vers quelque chose de perdu trouve aussi son origine ici. Il le dit d'ailleurs, je pense, hein, dans Voyage à Rodrigue, il le dit très expressément. S'il n'y avait pas eu la perte de Réka, cette maison, il n'aurait peut-être pas écrit. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Je crois que toute sa famille, encore aujourd'hui, souffre de cette perte. Moi, j'ai bien connu la mère de Jean-Marie à Nice. Et quand j'allais la voir, j'avais l'impression de retrouver quelqu'un qui avait vécu ici. Ouais. Une tante qui avait vécu à Eureka. Sa manière de me recevoir, sa manière de me parler, cette chaleur, cette tendresse, cette évidence, était pour moi, oui, c'est quelqu'un qui avait été façonné par Eureka. Et ce qui est étonnant, quand on pense à la mère de Jean-Marie, c'est qu'elle n'a jamais vécu ici, elle. Elle est née en France. Et son père lui parlait tout le temps de cette maison. Donc, je crois qu'il... Pour comprendre vraiment l'aspect, je dirais, biographique de l'écrivain, il faut vraiment revenir ici et sentir un peu les lieux, ce qu'a pu être cette maison.
Lointaine déjà, comme la montagne Ory qui s'estompe dans une heure imprécise, inaccessible. Pourtant, c'est là-bas, vers ce paysage fantôme, que mon père et avant lui mon grand-père Léon, mon grand-père Alexis, s'enfuient, après avoir franchi la route frontière qui va vers Moka et disparaît des journées entières dans la touffeur de la forêt. C'est là qu'il s'en va, âgé d'une douzaine d'années, pour faire la conquête du Pouce, de Peterborough. C'est par là-bas aussi qu'il explore avec ses sœurs la rivière Ory jusqu'à Cascade, pêchant les crevettes d'eau douce que les filles prennent dans leurs jupes comme dans des nasses. La maison avait été le centre du monde d'où l'on pouvait reconnaître alentour. Comment mon grand-père ne l'aurait-il pas gardé toujours en lui, même au fond de l'anse aux Anglais, maison immense et silencieuse, abstraite dans le secret de son jardin d'Éden, portant en elle le souvenir de sa naissance, comme un lieu où l'on ne retourne jamais. Et donc, c'est véranda qu'on appelle Varang.
Varang. C'est un élément très important de la vie d'une maison mauricienne. Ces grands fauteuils, par exemple, qu'on retrouve dans les varangs, sont des lieux de vie où les femmes... Auparavant, il y a déjà longtemps, les femmes s'aventuraient rarement à l'extérieur. Peut-être qu'il fallait préserver un teint, je ne sais pas, à l'époque. Mais elles restaient assises là, dans ces fauteuils, et elles faisaient de la couture, elles lisaient. Et puis c'était un lieu vraiment de bavardage, toutes les petites histoires de famille, de l'île, se étaient un peu détaillées ici. Et alors les pièces, il n'y avait pas de couloir dans les maisons. C'est-à-dire que les pièces communiquaient les unes avec les autres. Donc là, on est dans un salon. Et vous voyez, c'est une enfilade de pièces comme ça qui communiquent les unes avec les autres. Ma mère, par exemple, est née dans une maison à côté d'ici, une vieille maison aussi de Maurice. Et elle était installée dans une chambre qu'elle avait appelé la chambre aux sept portes. Donc vous imaginez l'intimité d'un enfant dans sa chambre lorsqu'il y a sept portes. C'était vraiment impressionnant parce que les maisons étaient faites pour que tout soit partagé. On n'avait jamais d'intimité dans une maison, sauf peut-être le maître de maison dans son bureau par exemple, mais sinon la famille... On savait exactement ce que faisaient les autres, comment la vie s'organisait. Il y avait une évidence, une spontanéité de la vie, une fraîcheur de la vie. Par exemple, ici, j'ai connu une vieille tante qui habitait là et qui avait placé son lit, qui était un lit très simple, au pied d'un escalier là-bas. On va le voir. Et elle dormait là. Elle dormait là, une grande modestie, une humilité, alors qu'elle était la propriétaire de cette grande maison avec je ne sais pas combien de chambres, des dizaines de chambres. Et voilà, vous voyez, dans cet endroit extrêmement modeste, elle avait un petit lit de camp et elle dormait là. Elle considérait que ça lui suffisait.
C'est étonnant.
Et
en même temps, avec cette ouverture sur le jardin, c'est très étonnant.
C'est très étonnant, n'est-ce pas?
J'aime bien toujours le bruit des balais qu'on entend.
Oui, alors les balais. Alors les balais, il faudrait qu'on voit parce que c'est un balai qui est fait avec des tiges de coco, de l'arbre, de cocotier. Bonjour. Coupé balier à balier coco.
Oui.
Encore fait à Maurice, à balier coco.
Oui.
Ouais. Ça, bien, bien pratique
et
pour les tout petits saletés un peu partout.
Oui, la tiroche, tout ça.
Beaucoup de travail, non?
Oui.
Balier tout.
Oui, le balier, c'est à l'arrosage. Oui.
Et dans la case, encore servi brosse coco?
Non.
Ça a une finie.
Ça
a une finie. Électrique.
Oui.
Il y avait une brosse à l'époque qui était. Donc on coupait des cocos secs. Donc ça faisait comme une sorte de demi-sphère. Et puis on dansait dessus presque avec le pied pour brosser, pour cirer les parquets.
Oui, brosser.
On se servait de ça. Oui, oui.
Et la fille rapprochée à lui, brosse coco.
Vous êtes encore servi ça, oui. Pour rappel, ça. Son litifère, on peut lancer là.
Oui. Ouais.
Merci beaucoup. Bon courage.
Vous parlez créole, Philippe Rémy?
Oui, mais oui, bien sûr. J'ai grandi ici, donc je parle créole, oui. Très bien. J'aime beaucoup, c'est une langue. Il y a une douceur dans le créole. Il y a une poésie. C'est très proche du français, mais un français qui a évolué et qui a intégré quelques mots de malgache, quelques langues africaines, des mots d'anglais et des mots d'indien, bien sûr, de Bhojpuri. Donc tous les immigrants indiens qui venaient de l'Inde à la fin du 19e siècle pour cultiver la canne à sucre ont apporté avec eux leur langue qui est encore parlée, très largement parlée ici, mais beaucoup de mots sont entrés dans le créole. Voilà, là nous sommes au pied de l'escalier, on va peut-être monter.
Jean-Marie Leclésio, quand on est sur les lieux de la maison Eureka, de ce grand jardin, il y a aussi des oiseaux, des arbres incroyables dans ce jardin. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à votre place et de lire presque autrement tous vos livres, parce qu'on sent que c'est vraiment le lieu central et le lieu d'une disparition, d'une... Et peut-être qu'on écrit toujours à partir de ça.
Oui, mais c'est assez imaginaire parce que cette maison, je n'y ai jamais vécu.
Oui.
Je pourrais même dire que je ne suis quasiment jamais entré. Mais une maison, c'est une maison. Ce n'est rien d'autre qu'une maison. Mais c'est le lieu sur lequel elle se trouve qui compte plus. Et je me disais qu'à la limite, c'est plus important qu'il y ait encore le ruisseau en dessous. Certains des arbres ont survécu. L'arbre calta, l'arbre du bien et du mal. Donc,
une variété de camélias.
Oui, c'est une variété de camélias. Mais ce qui est important, c'est le sol. Ce n'est pas vraiment la maison qui est dessus. Les maisons passent, elles ne sont pas durables. Mais l'île est durable, je crois.
L'île est bien, bien réelle maintenant, alors qu'elle a été longtemps imaginaire. C'est votre île. Il y a aussi des problèmes concrets, enfin, d'aujourd'hui, qui vous intéressent ici, à Maurice.
Oui, c'est vrai que c'est difficile Maurice, qui est un des plus jeunes pays de la planète, c'est un pays qui a 40 ans. Et donc, ils ont souffert des difficultés considérables. Monsieur Jean-Claude de Lestrac, ancien ministre, racontait qu'au moment où devait se décider l'indépendance, on faisait courir le bruit que lorsque cette indépendance aurait lieu, les gens allaient s'entretuer, parce qu'ils étaient de communautés différentes, parce qu'il y avait un très fort ressentiment à l'encontre des Européens, enfin des Franco-Mauriciens. Et on disait ça ne marchera pas, et même un économiste distingué, puisqu'il a reçu le prix Nobel d'économie, a déclaré à ce moment-là, quand il avait été consulté avant l'indépendance, a déclaré que ce serait une catastrophe, que ce pays allait sombrer dans la misère, parce que les Mauriciens ne savaient rien faire d'autre que de gratter le sol le matin et faire des enfants l'après-midi. Et apparemment, il s'était trompé. Il n'y a pas tant d'enfants que ça. Et bon, les Mauriciens savent faire autre chose que gratter le sol. Donc, l'île a réussi à surmonter ses très très grandes difficultés du début et a montré, donc, pour l'océan Indien, un exemple qui, je crois, est tout de même une sorte de phare pour les pays qui vivent sous tutelle et pour les pays où la corruption a empêché le développement. Quand on pense à toutes les occasions qu'il y avait de créer des affrontements violents, et ils n'ont pratiquement jamais eu lieu. Une fois, ils ont eu lieu juste une fois, mais ça a été très rapidement surmonté. Et il y a l'histoire étonnante de ce maire Kassamoutim qui a demandé à la population de se donner la main pour faire une ronde autour de l'île, parce que il leur a dit, nous sommes sur une île, si nous commençons à nous tuer, dans pas longtemps, il n'y aura plus personne. Et les gens ont fait ça, ça fait sourire, mais en même temps, je trouve que ça fait penser un peu à Paul Fort, si tous les gars du monde, ouais. Donc c'était ça, si tous les gars du monde se donnaient la main, ça ferait une ronde, et ça a fait une ronde autour de Maurice. Ouais. Donc c'est... j'aime beaucoup ces exemples. Et, les Mauriciens sont conscients de la valeur de cette entente. Ils savent qu'ils sont dans la bonne voie quand ils font ça. C'est aussi un des pays qui a signé le traité de non-prolifération d'armement nucléaire et qui a même proposé la dénucléarisation de tout l'océan Indien. Évidemment, ils n'ont pas été suivis par l'Inde ni par le Pakistan. Donc, Maurice se bat, et pas toujours avec succès. Mais on peut espérer.
Et soudain, sous ces filaos de la plage du Morne, j'ai repensé à ces scènes sur le sable de la plage de Flic en Flac. Que toutes les familles viennent le dimanche pour se retrouver, pour chanter, pour prier, pour manger, pour jouer, pour raconter. Comme si l'ombre des filaos et les couleurs de la mer venaient s'insinuer dans la mémoire de chacun et dans le visage de chacun. Et je repensais aussi à tous les récits qu'avait entendu Jean-Marie Le Clézio dans son enfance. Et puis à ce texte dans Le Chercheur d'or. Uma appuie sa tête contre mon épaule, comme au premier temps que nous nous sommes connus. Je sens l'odeur de son corps, de ses cheveux. Je lui parle de ce que j'aime, les chants du boucan, les trois mamelles, la vallée sombre et dangereuse de Mananava, où volent toujours les deux pas en queue. Uma écoute sans bouger, elle pense à autre chose. Je sens que son corps ne s'abandonne plus. Quand je veux la rassurer, la caresser, elle s'écarte, elle met ses bras autour de ses longues jambes, comme elle fait quand elle est seule. Qu'est-ce que tu as, tu es fâchée ? Elle ne répond pas. Nous marchons ensemble jusqu'aux dunes, dans la nuit qui commence. L'air est si doux, si léger au commencement de l'été. Le ciel, pur, qui commence à s'illuminer d'étoiles. Sri est resté assis près du campement, immobile et droit, comme un chien de garde. Raconte encore, quand tu étais enfant. Je parle lentement, en fumant une cigarette. Sentant l'odeur de miel du tabac anglais, je parle de tout cela, de notre maison, de Mam qui lisait les leçons sous la varangue, de l'or qui allait se cacher dans son arbre du bien et du mal, de notre ravin. Uma m'interrompt pour me poser des questions sur Mam, sur l'or surtout. Elle m'interroge sur elle, sur ses toilettes, sur ce qu'elle aimait, et je la crois jalouse. quand je veux me relever pour retourner au campement, elle me retient par le bras. Parle encore, de là-bas. Reste encore un peu. Elle veut que je lui parle encore de Mananava, des champs de canne, où nous courions avec Denis. Et le ravin qui s'ouvrait dans la forêt mystérieuse, et le vol lent des oiseaux étincelants de blancheur. Puis, elle me parle d'elle, encore, de son voyage en France, à Nice, le ciel si sombre et si bas, on dirait que la lumière va s'éteindre pour toujours, les prières dans la chapelle et les chants qu'elle aimait. Elle me parle de Harry et de Govinda qui grandit au milieu des troupeaux là-bas, dans le pays de sa mère. Et puis Maurice rime avec Nice.
Oui, c'est fait pour...
Encore un petit jumelage.
Oui. Moi, je parle aussi, pour moi, des 3 M. C'est le Maroc, Maurice et le Mexique. C'est les 3 M de ma vie, parce que j'ai des liens avec ces 3 pays. Et ces 3 pays, vraiment, sont complémentaires pour moi. Le Maroc, parce que, pour des raisons sentimentales, parce que Jemia vient du Maroc, et que je sens une grande sympathie, beaucoup d'affection pour ce pays. Maurice, pour des raisons familiales, puisque c'est là que, de ce pays que vient ma famille. Et le Mexique, parce qu'à un certain moment de ma vie, j'ai choisi de rester là, et de durer au Mexique, de comprendre comment était ce pays, et j'ai vraiment reçu beaucoup aussi de ces 2 autres pays, non seulement Maurice, mais le Maroc et le Mexique, les 3 M.
Oui, le rêve mexicain est un livre qu'on doit lire, relire, qui est aussi aujourd'hui très, très, très important, je trouve, très actuel.
Oui, le Mexique, évidemment, c'est un pays très violent et de plus en plus violent actuellement. Mais avec un passé tellement fabuleux, hein, les sociétés préhispaniques étaient des sociétés tellement développées, avec et cette partie de la culture mondiale a été oblitérée. Et ça, j'ai trouvé ça à la fois terrible et fascinant, la disparition d'un pan entier de l'humanité. Et le rêve mexicain, pour moi, c'était vraiment essayer de reconnecter avec ce vieux rêve. Qui avait été celui des conquérants espagnols au début, c'était d'arriver dans un nouveau monde, de jeter les bases d'un nouveau monde. Christophe Colomb voulait en faire la Nouvelle Jérusalem, même un soldat comme Bernal Diaz del Castillo voyait dans le Mexique la régénération de l'Espagne, qui considérait que l'Espagne était un pays rempli de vices, et il disait, ici, sur ce sol, on va pouvoir faire redémarrer une société idéale. Et évidemment, il s'est lourdement trompé, puisque la conquête a tourné très vite à l'exploitation, à la servitude, au crime. Donc, c'est une histoire tragique. Mais moi, je la trouve émouvante et je la trouve importante. C'est important que nous connaissions ces pans de l'histoire qui ont été presque effacés.
C'est une tâche que vous êtes donnée aussi de... justement de rétablir la mémoire de tout cela.
Oui. Je n'ai pas senti ça comme une tâche, mais comme une sorte de justice presque esthétique à rendre.
Oui.
Parce que moi, ce qui m'a ému dans les sociétés préhispaniques, c'était l'art, leur extraordinaire développement artistique, l'art de tailler la pierre, de sculpter des bas-reliefs, l'art de peindre des manuscrits. Donc c'était une société extrêmement artiste. Elle n'était pas violente et sanguinaire, comme on l'a dit. C'était une société qui vivait de sacré, et le sang faisait partie du sacré, mais ce n'était pas une société plus sanglante que beaucoup d'autres qu'on juge très développées, comme la société des Grecs ou celle des Romains. Mais c'est une société qui n'a pas pu... Le temps lui a manqué. L'arrivée brutale des conquérants, donc l'Europe techniques et des armements développés a empêché ce pays de se développer normalement, de suivre une évolution. Et je trouve que c'est... Donc c'est pas pour moi une tâche, c'était un choc esthétique, mais j'avais envie de parler mieux de cette capacité de produire de l'art qui était pour moi le fondement de la société préhispanique, la société amérindienne, particulièrement au Mexique. Je vois que vous êtes mal. Là.
Non, c'est là. Oui.
Là, le soleil a un peu décliné. Là.
Les sociétés amérindiennes et il y a la mer indienne en face de nous.
Oui.
J'aime bien quand vous appelez la mer des Indes dans le roman.
Oui. Oui, c'est cet océan indien qui est très violent, en fait. Il a l'air calme comme ça, mais les vagues sont très très fortes. On nous dit qu'actuellement, si on veut aller à Saint-Brandon, qui est l'atoll le plus proche au nord de Maurice, on a des creux de 5 mètres. Et donc un petit bateau a du mal à survivre. Mais il s'y passe des choses fabuleuses. Il y a 2 ans, 2 pêcheurs mauriciens, très modestes, dans une pirogue comme celle qu'on voit ici, sont tombés en panne de moteur et avaient oublié de prendre des avirons. Et le courant les a entraînés, ils ont dérivé pendant 1 mois et demi. Et ils ont été recueillis au large de Madagascar par un navire de guerre français, et, alors qu'ils étaient presque mourants, parce qu'ils n'avaient pas de provisions, et ils n'avaient pas de réserve d'eau. Et ils ont vécu en recueillant l'eau de pluie, en pêchant de temps en temps un poisson avec une sorte de harpon qu'ils avaient fabriqué. Et le plus étonnant, c'est que l'un était chrétien et l'autre musulman. Et ils ont alterné les prières tout au long de leur dérive, en espérant qu'un des dieux allait les entendre. Et ça s'est produit, vraisemblablement. Et ils sont devenus d'ailleurs très amis. Je suis allé les voir. Ils habitent dans une maison assez pauvre de la région des environs de Port-Louis. Et ils m'ont raconté cette histoire extraordinaire. J'avais eu envie à ce moment-là d'en faire comme un livre d'enfant, un livre, une histoire fabuleuse pour montrer que...
Bawana.
Oui, pour montrer que même dans les circonstances les plus graves, des gens très simples peuvent trouver la force de survivre, de tenir... je crois qu'ils sont restés... quelque chose comme 50 jours en mer, sans rien voir que cet océan, voyant passer des requins de temps en temps, très inquiets, et puis priant, chantant pour garder le moral, se parlant. Lorsque le navire les a recueillis, l'un des deux était littéralement en train de mourir. Et l'autre était en train de lui chanter des chansons, d'essayer de le calmer, de l'apaiser. Et puis tout à coup, ils ont vu le bateau au large et ils ont été recueillis.
Effectivement, une fable.
Oui, j'écrirai peut-être ça. Je voulais que ce soit eux qui l'écrivent et je leur avais dit d'écrire ça. Et puis, j'aurais mis quelques mots aussi à moi et on aurait écrit ce livre à trois. Ça, je vais le faire. Et c'est un des projets que j'ai ici à Maurice.
Merci Jean-Marie Le Clézio de nous avoir fait partager ces moments à Maurice, magiques.
Oui, ce sont des moments qui ne finissent pas à Maurice. Il faudra en avoir d'autres, d'en recommencer. C'est comme la mer, ça ne s'use pas.
Et le rideau se referme sur ce deuxième temps du voyage à l'île Maurice avec Jean-Marie Le Clézio. Merci à Philippe Ray de nous avoir fait revivre la maison Eureka par la mémoire de ces scènes de famille. Le rêve mexicain de Jean-Marie Le Clézio, le rêve mexicain où la pensée interrompue, s'est paru en folio ici. Révolution, c'est en folio également, Gallimard. Avec Génial Le Clézio, je signale Jean des Nuages, c'est paru chez Stock. Et Siranda, avec des dessins de Jean-Marie Le Clézio, c'est paru chez Segers. Merci à Gémia Le Clézio et Sarojini Asgarali, à Air France, Dominique Gimet et François Brousse qui nous ont assuré le vol Paris-Mauritius, à l'hôtel Sofitel Impérial Mauritius, Flic en Plaque. Suite et fin de ce carnet à l'île Maurice dimanche prochain
à 14h. Carnet Nomade, Daphne Abgral à la coordination, Vincent Deck à la réalisation. Colette Fellouz, rendez-vous donc dimanche prochain. Très bon dimanche à tous.